France Culture, 2h20, nous sommes lundi, comme chaque lundi, nous retrouvons Philippe Langlois dans le cadre de nos carnets de notes. Philippe Langlois, vous êtes sur le point de fêter la 100e émission de Tu vois ce que j'entends. Ouais. Alors j'imagine que vous nous avez concocté un programme spécial.
Et oui, aujourd'hui, c'est déjà la 99e émission et dans laquelle nous poursuivons les recherches archéologiques entreprises depuis plus de 2 ans en matière de musique de film pour vous offrir cette fois-ci des documents se rapportant aux toutes premières expériences de musique électronique au cinéma. Nous allons pour cela nous rendre aux États-Unis à la fin des années 40 et nous intéresser au travail des époux Baron. Louis et Bébé Baron sont en effet davantage connus pour avoir composé la musique de Planète Interdite de Fred MacLeod Wilcox en 1955 que pour leur production musicale pour les films expérimentaux de Maya Deren, Jan Hugo, Shirley Clarke ou Walter Levinson. Aussi entendrons-nous des documents totalement inédits, Bells of Atlantis en 1952 et Jazz of Light 1954 de la cinéaste Jan Hugo. Nous aurons également la chance d'entendre Bébé Baron au micro du compositeur Marc Battier. Marc Battier s'est en effet rendu cet été à Beverly Hills où elle réside pour lui poser une série de questions que nous avions préparées à son intention. Bébé Baron évoque de quelle manière elle et son mari ont inventé la musique électronique.
Tout a commencé en 1948. Quelqu'un nous avait offert en cadeau de mariage le tout premier modèle allemand de magnétophone à bande. Je crois qu'Hitler utilisait ce même modèle pour enregistrer ses discours au cas où il lui arriverait quelque chose. Nous avons immédiatement pressenti les grandes possibilités musicales d'un tel appareil. Mais à cette époque, Louis venait tout juste d'entendre parler de cybernétique à travers le livre de Norbert Wiener. Ce livre l'a tellement influencé qu'il a immédiatement commencé à construire ces circuits actifs évoqués dans le livre pour produire les sons. Évidemment, au départ, ces circuits n'étaient pas du tout prévus pour cet usage. Et très scrupuleusement, on a amplifié les sons avant d'enregistrer sur le magnétophone tout ce qui sortait de ces machines. Et ensuite, on a commencé à les transformer d'une manière, je dirais, prophétique. Évidemment, aujourd'hui, c'est un peu démodé parce que à l'époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'était changer la vitesse, passer les sons à l'envers, ajouter de l'écho, enfin, des manipulations très basiques. Mais ces circuits étaient merveilleux, vraiment merveilleux. Et Louis a été très ingénieux en adaptant ces circuits pour la production des sons. Ça fonctionnait. Nos circuits étaient créés sur le modèle du cerveau humain et ça marchait. Et ce qui est très étonnant, c'est que lorsque nous faisions entendre nos résultats sonores à des amis, à des gens, Ils écoutaient et parfois ils disaient « Ça me rappelle le rêve que j'ai fait l'autre jour quand je me noyais. » Et c'est justement exactement ce que nous avions en tête lorsque nous l'avons fait. Manifestement, il y avait donc une sorte d'universalité entre ce que l'on pensait et ce que les circuits étaient capables de produire. C'est vraiment une chose excitante. Une fois les circuits allumés, il pouvait également se produire toutes sortes de petites choses un peu folles, capables de changer totalement le son. Même la température de la pièce, si elle variait par exemple. C'est vrai qu'à l'époque, nous n'avions qu'un maigre système d'air conditionné, qui est d'ailleurs responsable de certaines parties de notre musique.
En 1951, Louis et Bébé Baron composent Heavenly Menagerie, la première pièce de musique électronique. C'est grâce à cette pièce que les Baron vont entrer en contact avec la cinéaste expérimentale Yann Hugo. Écoutons Bébé Baron.
Ce qui s'est passé, Anaïs Nin et Yann Hugo, qui connaissaient un peu notre musique pour avoir entendu quelques-unes de nos expériences passées, nous ont demandé si nous souhaitions composer de la musique pour un film expérimental. Et nous étions très excités. Elles nous ont dit que tout le film se passait sous l'eau. Alors, Louis et moi avons tout essayé pour produire des sonorités qui pouvaient être des sonorités sous-marines. Et les boucles de son se sont avérées être une bonne solution. Notre magnétophone Stanton Hoffman était spécifiquement utilisé pour faire des boucles. On pouvait agir sur le cabestan du magnétophone ou changer la vitesse des boucles. Mais la bande tournait de côté plutôt qu'horizontalement. Enfin, nous avions ça en tête en concevant cette machine. Alors on a commencé à faire des boucles comme des fous, rajoutant de l'écho pour restituer des effets aquatiques. C'était vraiment merveilleux, malgré ces moyens tout simples dont nous disposions.
My first vision of Earth was water veiled. I am of the race of men and women who see all things through a curtain of sea. I remember my first birth in water. I sway and float, stand on boneless toes, listening for distant sounds, sounds beyond the reach of human ears. Seeing things beyond the reach of human eyes. Born full of memories of the bells of Atlantis, always listening for lost sounds and searching for lost colors. Lost in the colors of Atlantis, the colors running into one another without frontiers. It was like yawning. I loved the ease and the blindness of the suave voyages on the water, bearing one through obstacles. Far beneath the level of storms, I slept. I moved within color and music, like inside a sea dive. There were no currents of thought. Only the caress and flow of desire, mingling, touching, traveling, withdrawing, wandering, the endless bottoms of peace.
Bells of Atlantis, 1952, poème d'Anaïs Nin, extrait de son recueil The House of Incest. Tout comme Pierre Schaeffer, qui à la même époque créait des boucles à partir de disques en sillon fermé, Louis et Bébé Baron, qui ignoraient tout des travaux de Schaeffer à cette époque, vont également créer des boucles sur leur magnétophone Stanton Hafman. D'autres manipulations sont aussi possibles à partir d'un simple magnétophone, comme augmenter progressivement la vitesse de défilement du son, ce qui a pour effet de transposer ce son vers le registre aigu. Cette manière d'utiliser les ressources du magnétophone à bande pour créer des boucles et étendre la gamme des sons électroniques préfigure dans les années 50 la véritable naissance de la musique électro-acoustique. Rien ne pouvait mieux convenir pour illustrer les cloches de la cité antique engloutie d'Atlantis, The Bell of Atlantis, que les sonorités électroniques de Louis et Bébé Baron. Ces cloches immatérielles semblent en effet provenir d'un autre monde sonore et résonnent à travers l'eau pour parvenir jusqu'à nos oreilles. Tout dans la musique participe à l'évocation d'un monde aquatique. La texture des ondes sonores, qui s'apparentent à des gouttes d'eau, les effets d'écho propres à l'univers aquatique, les petits motifs qui sifflent dans le lointain, autant de chants pouvant provenir de mammifères marins imaginaires.
This Atlantis could only be found at night by the root of the dream. The terror and joy of murders accomplished in silence.
Avant de composer la célèbre musique de Planète Interdite de Fred MacLeod Wilcox en 1955, Louis et Bébé Baron vont de nouveau travailler avec la cinéaste Yann Hugo pour composer la bande sonore de Jazz of Light en 1954. Ce film nous transporte vers une autre cité mythique, New York, à l'activité artistique bouillonnante dans les années 50. C'est en effet la grande époque de Broadway, des pièces de théâtre d'avant-garde. C'est aussi l'époque du American Meme Theater, des clubs de jazz où retentissent déjà les premiers accents de free jazz, des réunions d'artistes regroupant architectes, compositeurs, peintres et sculpteurs. Ce contexte d'effervescence artistique d'après-guerre est la source d'inspiration de Jazz of Light, qui traduit en images le mouvement syncopé des lumières saisies de nuit par la caméra de Jan Hugo. Comme pour Bells of Atlantis, la poésie est présente, disséminée sur la devanture des théâtres ou circulant en lettres colorées le long des façades des buildings. Aucun son direct en provenance de l'image ne vient perturber la musique électronique des Barons, qui se calque miraculeusement sur les pas des passants, sur des séquences musicales où des batteurs jouent sur des barils, où des danseurs de claquettes se produisent, renouvelant sans cesse la surprise et la vitalité du montage audiovisuel. Jazz of Light de Jan Hugo. En 1955, après avoir rencontré Dor Cherry, le directeur de la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, et lui avoir fait découvrir leur composition électronique, Lewis et Bébé Baron repartent avec un contrat pour composer la musique d'un long-métrage de science-fiction, le cultissime Forbidden Planet, Planète Interdite, de Fred MacLeod Wilcox. Bébé Baron.
Certaines des séquences dans Planète Interdite ont été obtenues tout simplement en ralentissant le son un nombre incalculable de fois. Je me souviens du monstre dans Planète Interdite. On a tout simplement enregistré le son tel qu'il sortait de l'un des circuits et on l'a ralenti 96 fois. Bien sûr, cette opération générait énormément de bruit de fond. C'est comme ça que nous avons découvert un tas d'effets sonores. Or, nous étions submergés de problèmes. Malgré ça, la musique est apparue et bizarrement, de manière logique, parce qu'au fond, nos circuits fonctionnaient d'une manière mathématique et de ce fait, ils étaient ordonnés. Voilà, c'est comme cela que nous avons véritablement commencé. Sans avoir jamais cherché à créer des circuits en dehors de toute théorie. Parce que nous n'aurions jamais eu la moindre idée sur les résultats. Alors qu'en partant des modèles de Nobawina, nous pouvions avoir une idée générale sur le comportement des circuits. Calme, joli ou emporté, que sais-je. Nous pouvions nous faire une idée et pressentir comment cela pouvait sonner. Évidemment, ce moment d'élaboration était probablement l'instant où l'art véritable se produisait. Et c'est ce que nous avons fait. Thank you.
Voilà, un grand merci à Marc Battier qui a réalisé pour nous cet entretien avec Bébé Baronne. Un très grand merci également au personnel du département cinéma du centre Georges Pompidou qui nous a permis d'enregistrer les bandes sonores des films de Yann Hugo. Merci également à Nathalie Ruger pour la traduction simultanée des films de l'entretien de Bébé Baronne. Dans notre prochaine émission, le 100e numéro, nous allons évoquer les tout premiers sons synthétiques de l'histoire de la musique de film, produits dès la fin des années 20 avec un film fondateur et totalement inédit, Tonen de Handschrift, l'écriture sonore manuscrite de Rudolf Pfenninger. Attaché de production Claire Poinsignon, mixage Ariane Herbé, réalisation Gilles Mardi-Rossian, tu vois ce que j'entends, une émission proposée par Philippe Langlois.